Je vous invite à tourner dans la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, verset 22. Alors, le Seigneur a placé un passage sur mon cœur ce matin, simplement pour, lorsque l'Église est pauvre en doctrine, lorsque l'Église détourne ses yeux de l'Évangile ou dilue les messages de l'Évangile, eh bien, la première doctrine, le premier enseignement, finalement, qui est remis en doute, c'est la divinité de Jésus-Christ. Jésus, c'est le Fils de Dieu. On met l'emphase sur le Fils de Dieu. Jésus, c'est le chef des anges. Et finalement, eh bien, si on s'accroche sur ces deux choses-là, que Jésus n'est pas Dieu, eh bien, notre salut, on est perdu, quoi. Hein? Jésus, si ça avait été le chef des anges, il serait venu sauver les anges. Il serait pas venu sauver les gens. Et Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ pour nous racheter. Tout ça, ça me ramène, je ne veux pas prendre de temps, mais simplement l'introduction pour que vous saisissiez ce matin que le message va être différent des autres fois. Il y a beaucoup de versets bibliques qu'on va regarder ensemble. Mais c'est important parce qu'il y a des gens qui viennent frapper à notre porte et qui viennent nous donner des versets qui sont isolés de leur contexte et qui nous amènent à penser que Jésus n'est pas Dieu fait homme. Mais on va regarder 3-4 points ce matin qui, à travers les Écritures, qui confirment que Jésus est vraiment Dieu, ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu qui est venu nous visiter dans une personne, la personne de Jésus-Christ, et qui est Dieu. C'est ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est grand et redoutable, mais riche en bonté, lent à la colère. C'est lui qui est venu nous visiter. Nous faisons partie de sa famille. C'est vraiment, vraiment important. Une autre chose que je tiens à vous dire, je peux nommer la famille d'Église, ce sont les témoins de Jéhovah. Si vous témoignez avec les témoins de Jéhovah, vous n'acceptez jamais de témoigner avec leurs saintes Écritures qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Les saintes Écritures, c'est une fabrication, soi-disant, falsification, voilà, de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont été refusés, parce que hein, vous savez que la Bible, c'est un droit d'auteur. Vous ne pouvez pas mettre le mot Bible sur le couvercle d'un livre si ce n'est pas conforme aux textes originaux. Ils ont essayé de faire accepter leur version, ça a été refusé. Donc, ils appellent ça les saintes Écritures, qui est quand même très séduisant, hein, c'est les saintes Écritures. Pour les vieilles personnes, la Bible, c'est les saintes Écritures, mais les textes ne sont pas conformes aux textes originaux. Et à chaque fois où le texte confirme que Jésus est Dieu, ils ont modifié le verset. Donc, c'est simplement une mise en garde que je vous fais. Si vous pouvez témoigner avec des témoins de Jéhovah, mais vous leur dites, écoute, si tu viens avec une Bible, il n'y a pas de problème, je vais témoigner avec toi. Et avec une Bible, on peut aussi leur montrer dans quoi ils sont. Donc, on n'a pas à leur en vouloir. C'est vrai que la parole nous met en garde contre tous ces gens qui vivent dans les ténèbres. Mais à travers ça, je pense qu'il y en a qui sont pris dans les pièges du malin. Je lis des témoignages des gens qui disent « 25 ans, j'ai été 25 ans prisonnier dans les témoins de Jéhovah. 25 ans à vivre dans la crainte, toujours dans la crainte de l'organisation. On peut louer le Seigneur ce matin que nous, on vivait dans le monde. » Mais que le Seigneur s'est révélé directement, on a entendu directement l'Évangile et que le Seigneur nous a épargné de tomber dans des sectes. Ça, on doit vraiment louer le Seigneur pour ça. Parce que dans les sectes, on sort avec des blessures incroyables, quoi, qu'on traîne pendant des années. Alors, ils ont eu un lavage de cerveau et finalement, le Seigneur doit faire un lavage de cœur pour que ces gens-là puissent vraiment revenir dans la parole, centrer leur regard dans la parole. Alors, ce matin, eh bien, le texte que j'ai pris dans Matthieu, chapitre 27, le contexte est le suivant. Jésus a été accusé et il va comparaître devant Pilate, qui tient finalement son sort entre ses mains. Et est-ce que Pilate va permettre qu'on le libère ou qu'on le condamne? Eh bien, on doit se rappeler une chose, c'est que Pilate était un habile politicien et toutes les décisions qu'il rendait, finalement, c'était par profit politique et non parce qu'il avait soif de justice. Et devant les chefs et la foule rassemblée devant lui, Pilate va leur poser la question suivante. Verset 22. Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Ils répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Eh bien, ce matin, je vais vous poser la même question, parce que tout comme à l'époque de Jésus, qui se tenait devant Pilate, aujourd'hui, Jésus se tient devant nous, il est dans notre église ce matin. Il est dans ce lieu, parce que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, la parole nous dit qu'il est au milieu de nous. Amen. Qu'allez-vous faire de Jésus ce matin? C'est une question capitale. C'est une question personnelle. Et c'est une question qui demande une réponse immédiate. Que ferez-vous de Jésus ce matin? Je ne vous demande pas ce que vous pensez faire de lui demain ou ce que vous allez faire de lui, vous avez fait de lui dans le passé. Je vous demande ce que vous ferez de Jésus aujourd'hui même. Je peux déjà vous dire ce que vous ferez de lui. Et il y a quelques possibilités. Soit que vous dites, je ne veux rien savoir de lui, ou je veux le connaître personnellement. Soit que vous l'acceptez ou que vous le rejetez. Soit que vous le couronnez ou que vous le crucifiez. Soit que vous l'écoutez ou que vous l'ignorez. Mais vous ferez quelque chose de Jésus. N'est-ce pas là une question pertinente qui demande ce que vous allez faire de Jésus appelé le Christ? Et la question, on peut l'élargir un peu plus, c'est qu'est-ce que je fais de Jésus à chaque jour de ma vie? Qu'est-ce que je fais de Jésus à chaque jour de ma vie? C'est une question que Pilate a posée. Et c'est une question que le Seigneur, à travers Pilate, nous rappelle ce matin. Qu'est-ce que je fais de Jésus à chaque jour de ma vie? Qui est Jésus-Christ? Je crois ce que la Bible enseigne, elle enseigne que Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, Jésus est soit un imposteur, un usurpateur d'identité ou un grand prétentieux. Et j'aimerais vous montrer ce matin à partir de la parole de Dieu, et ce au-delà de tout doute possible, pardon, que Jésus lui-même a affirmé être le Fils de Dieu. Et si vous n'aimez pas le terme « Fils de Dieu », faites juste inverser « Dieu » et « Fils ». Jésus est Dieu le Fils. Jésus est Dieu le Fils. Dieu l'Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils. Trois en un. Quelque chose qu'on est incapable de comprendre avec notre intelligence humaine. Trois personnes en une. On ne peut pas faire ça sur la terre. C'est dans le domaine de Dieu. Mais par la foi, on croit au Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Vraiment important que cette doctrine, c'est une des quatre doctrines fondamentales du christianisme, du véritable christianisme. Par conséquent, on ne peut pas se limiter à dire que Jésus était un homme bon ou un prophète. Ou non, si Jésus n'est pas Dieu, c'est un fraudeur, un imposteur ou un grand séducteur, et cela signifie qu'il a trompé non seulement des millions de gens, mais qu'il a blasphémé le Dieu Tout-Puissant, qu'il a profané tout ce qui est sacré, qu'il a faussement représenté Dieu le Père, qu'il a été un objet de scandale pour la parole de Dieu et qu'il a invalidé les écrits de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Si Jésus-Christ est seulement un homme, c'est un menteur, un manipulateur et un imposteur. Il est l'une de ces trois choses, frères et sœurs. Soit qu'il est le Seigneur et il est Dieu, soit que c'est un menteur. Et la parole de Dieu n'a plus aucune crédibilité, soit qu'il est fou et on aurait dû le faire interner à l'époque. C'est une des trois choses. Et vous êtes appelés à faire votre choix parmi ces trois possibilités ce matin. Pour ceux qui ne sont pas convaincus de connaître le Seigneur ce matin, c'est une des trois possibilités que vous avez à faire. Et en tant que chrétien, quand je vous dis que faites-vous de Jésus à chaque jour de votre vie, eh bien, vous avez trois choix en façon de votre conduite au quotidien. Soit que Jésus, c'est un menteur, il vous en prenez, vous en laissez de ce qu'il a dit. Soit pour vous, c'est quelqu'un qui t'apprend au sérieux ou pas. Ou soit finalement que vous obéissez parce que vous croyez que c'est vraiment Dieu fait homme. Et ce matin, eh bien, vous êtes appelé à faire votre choix parmi ces trois possibilités, d'où ma question, que ferez-vous de Jésus-Christ? J'ai dit dès le début que Jésus est Dieu et j'aimerais vous fournir quatre preuves qui montrent que c'est vraiment le cas. Ce n'est pas accidentel si les quatre doctrines de notre foi se rattachent à la divinité de Jésus. Naissance, crucifixion, résurrection, retour de Jésus-Christ. Ça, c'est quatre doctrines qu'on ne peut pas faire de compromis dans le véritable christianisme. S'il n'y a pas eu la naissance virginale de Jésus, bien, je regrette Jésus venu au monde avec le péché qui habite en lui. Et s'il n'est pas vraiment mort, si ce n'est pas Dieu qui est mort pour nous, eh bien, on est désespéré, on est encore perdu pour l'éternité. Et s'il n'est pas ressuscité, vous n'avez aucune espérance qu'il existe quelque chose après la mort. Et si vous ne croyez pas au retour de Jésus-Christ, vous le traitez de menteur parce qu'il a dit à ses disciples qu'il reviendrait les chercher. Amen. Magnifique, n'est-ce pas? Quatre doctrines qui doivent être imprégnées, tatouées dans notre cœur. Naissance virginale, crucifixion, résurrection, retour de Jésus-Christ. Ça, c'est quatre choses qu'on ne peut pas négocier avec aucune église qui ne croit pas en cela. Une église qui ne croit pas en ces quatre points-là, on ne nous est pas permis de travailler avec ces églises. La première raison qui démontre que Jésus est Dieu, et on va prier avant de regarder la première, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer. Te louer, Seigneur, parce que celui qui est la lumière du monde, Seigneur, est venu éclairer nos cœurs et est venu nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvions. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es non seulement notre frère, mais tu es aussi un ami qui est fidèle, un ami qui ne nous fait pas défaut. Et ce matin, Seigneur, nous implorons ton aide, afin que cette doctrine, Seigneur, de la divinité de Jésus puisse être reçue, puisse être gardée, Seigneur, et imprégnée dans notre cœur jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Seigneur, merci parce que ce matin, nous sommes ici non pas seulement pour parler du crucifié, mais du ressuscité et de celui qui revient bientôt chercher son Église. Sois béni, Seigneur, et bénis ta parole, Seigneur. Parle à travers ma bouche, que l'homme puisse s'effacer, que ton esprit puisse parler, afin que non seulement nous puissions entendre avec nos oreilles, mais que cette parole que nous entendrons puisse pénétrer nos cœurs et y demeurer pour l'éternité. Et c'est dans le beau nom de Jésus que je te le demande, et le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est que nous retrouvons tous les attributs du Père dans le Seigneur Jésus-Christ. Tous les attributs de Dieu le Père, nous les retrouvons dans le Seigneur Jésus-Christ. Les vieilles versions de la Bible utilisent le mot « Jéhovah » ou « Yahvé » pour identifier Dieu dans la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le mot « Yahvé » ou « Jéhovah », bon, on se disputera pas sur les trois lettres, mais apparaît plus de 7000 fois dans l'Ancien Testament dans nos vieilles versions. Et on traduit par le mot « éternel » ou par « Seigneur » dans nos versions modernes. Et j'aimerais partager avec vous certains passages qui confirment que Jésus est bien ce Jéhovah, est bien ce Yahvé que l'Ancien Testament parle. Et quand je parle de Jéhovah, oublions ce qui se passe à l'extérieur, rappelons-nous qu'on parle de l'Éternel et du Seigneur. Lorsque les scribes transcrivaient les Écritures, ils ne prononçaient pas le nom de Dieu à haute voix. Quand leurs yeux tombaient sur ce nom, ils fermaient les yeux, ils inclinaient simplement la tête et ils adoraient Yahvé. Et Yahvé, pour eux, c'était un nom tellement important que lorsqu'ils devaient écrire le nom de Yahvé, ils mettaient de côté leurs vieilles plumes et ils en prenaient une nouvelle, simplement pour écrire le nom de Yahvé. Alors, s'il apparaît 7000 fois dans l'Ancien Testament, ça vous donne un nombre d'idées du nombre de plumes qu'ils ont utilisées. Ouais. Tellement ce nom, non seulement on ne pouvait pas le prononcer, on ne pouvait même pas lever la tête, on inclinait la tête, parce qu'on savait devant qui on était. Et frères et sœurs, sans de tomber dans la religion à l'extrême, on a besoin de se rappeler que quand on vient prier Yahvé, eh bien, qu'on a besoin de s'incliner devant lui, parce qu'il tient notre destinée entre ses mains. Amen. Amen. On est en train de, souvent dans nos églises, on désacralise le nom de Dieu. Et on fait comme certaines religions, hein, Jésus, ben c'est le petit Jésus, c'est toujours le petit Jésus, quoi. Hein. Et c'est pas lui qui nous prend par la main, finalement, c'est nous qui le prenons par la main pour qu'on y suive, hein. Ouais. Mais Yahvé, frères et sœurs. Allez dire à un juif, tu vas adorer Yahvé. Ah! Pourquoi David se coucha le ventre quand il adorait son Dieu? Il savait, il était conscient devant qui il était. Et on a besoin de prendre conscience qui on adore quand on vient à l'Église, qui on adore quand on est dans nos maisons. C'est Yahvé, celui qui dit, et ça apparaît. Celui qui dit, c'est fini aujourd'hui, je te rappelle à moi. Tu peux faire battre ton cœur comme tu veux quand le Seigneur dit, c'est fini, c'est fini. Il a le plein contrôle finalement sur nous, frères et sœurs. Yahvé! Amen! Yahvé! Yahvé était le nom que Dieu utilisait lorsqu'il s'adressait à son peuple. Ce que j'aimerais démontrer ce matin, c'est que le nom de Jéhovah, ou que le Jéhovah, le Yahvé de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament ne font qu'un. Je vais vous citer quelques versets des Écritures pour soutenir ce point. Maintenant, écoutez, je ne peux pas attendre que tout le monde ait trouvé le passage, parce qu'il va être une heure, on va être encore ici. Mais vous avez le texte biblique vous avez le texte de la prédication qui apparaît sur le site de l'Église, vous allez avoir tous les versets. Quand je vous dirai de pouvoir tourner dans un passage, vous pourrez y aller. Si vous êtes capable d'y aller, de me suivre, il n'y a pas de problème. Je vous dis que l'exercice est plus difficile ce matin, ce n'est pas un message comme on entend d'habitude, mais je pense que c'est important de se rappeler que Jésus est Dieu, que ce n'est pas n'importe qui, et qu'on n'adore pas n'importe qui non plus, qu'on a un Dieu qui est extraordinaire. On a un Yahvé qui est merveilleux. Quelqu'un qui aurait pu nous condamner et qui a décidé de nous sauver. Quelqu'un qui nous voit souvent qu'on fait un pas de travers et qui pourtant pleure. Hein? Si vous lisez le Nouveau Testament, il y a deux passages dans l'Ancien Testament où Dieu pleure. Il y a un passage dans le Nouveau Testament où Jésus pleure devant la condition de son peuple. Et je suis persuadé aujourd'hui que quand Jésus regarde la condition de l'Église aujourd'hui, Jésus doit pleurer, frères et sœurs. Il doit pleurer. Que faites-vous de Jésus-Christ à chaque jour, frères et sœurs, de la semaine? Que faites-vous de Jésus-Christ à votre travail? Que faites-vous de Jésus-Christ dans vos maisons? Je vais vous citer quelques versets, voilà, dans Isaïe chapitre 40, verset 3. Nous avons une prophétie concernant notre Seigneur. Une voix crie, dit Isaïe, préparer au désert le chemin de l'Éternel, de Yahvé. Le mot Yahvé est le mot utilisé ici pour Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, dit Ésaïe. De qui parle-t-on ici? De Yahvé, notre Dieu. Regardez maintenant comment cette prophétie s'accomplit dans Matthieu, chapitre 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Donc, la prophétie, elle s'adresse, c'est Jean, Jean-Baptiste. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez vos sentiers. » Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit en parlant de Jésus, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus parlait ici de Jésus. Ésaïe parlait de Yahvé et le même passage est utilisé pour confirmer que Jésus a accompli cette prophétie. Ça veut dire que le Yahvé, que Ésaïe prophétise, Jean-Baptiste confirme que Jésus-Christ est ce Yahvé que Ésaïe prophétisait dans l'Ancien Testament. Vous me suivez toujours? Parfait. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 11, Dieu parle de lui-même et voici ce qu'il dit. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Pourquoi on ne regardera pas tellement de passages dans l'Évangile de Jean? Tout simplement parce que si vous témoignez avec les témoins de Jéhovah, ils sont blindés avec l'Évangile de Jean, où c'est le texte où l'Évangile de Jean utilise le plus souvent le mot « Fils de Dieu ». Ils sortent un verset de leur contexte et vous êtes incapables de vous en sortir. Il faut utiliser le cinquième Évangile pour être capable de parler, de les contrer. C'est Ésaïe. Ésaïe, c'est clair, Ésaïe, que Jésus est Dieu. C'est clair que Jésus est Dieu dans Ésaïe. Mais avec l'Évangile de Jean, ils vont vous tourner. Ils vont vous tourner, tourner, vous allez perdre votre sueur, vous allez perdre votre sang-froid et vous risquez de vous énerver pour rien. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 11, Dieu parle de lui-même. Et voici ce qu'il dit. « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » En bon français, ça veut dire, écoute, en dehors de moi, il n'y a personne qui peut dire qu'il est sauveur. C'est le mot « Yahvé » qui est utilisé ici. Dieu est en train de dire, il n'y a pas d'autre sauveur que Yahvé. Est-ce que c'est ça que vous avez dans votre version? Est-ce que c'est clair dans Ésaïe 43, 11, pour ceux qui ont tourné? Bien, je vais leur lire. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, hein, c'est moi qui suis Yahvé, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est bien ça que vous avez? Merci. Dans Dieu dit, dans Tite chapitre 2, verset 13, Tite chapitre 2, verset 13, donc, Dieu dit dans Ésaïe, « Je suis Jéhovah, il n'y a pas d'autre sauveur. » Et dans Tite, chapitre 2, verset 13, nous lisons que nous devons attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur, Jésus-Christ. Si dans Ésaïe, Dieu dit qu'il n'y a un seul sauveur et que dans Tite, Paul dit qu'on attend la bienheureuse espérance de notre grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, s'il n'y a qu'un seul Sauveur et que Paul dit que le Sauveur, c'est Jésus-Christ, le Yahvé de l'Ancien Testament et Jésus-Christ ne font qu'un. Permettez-moi de vous citer d'autres versets. Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées dit, je suis le premier et je suis le dernier. L'Éternel des armées, le Yahvé. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Yahvé, le roi d'Israël, dit, je suis le premier et je suis le dernier. Tournez dans Apocalypse, chapitre 1, verset 17. Pour ceux qui ont leur Bible, Apocalypse, chapitre 1, verset 17. L'apôtre Jean dit ici qu'il a une vision. Et Jésus dit, il a une vision, pardon, de Jésus. Et il dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Il y avait dans l'Ancien Testament qui dit à Ésaïe, « Je suis le premier et le dernier. » Jésus apparaît à Ésaïe, à Jean dans 1, Apocalypse 1, verset 17, Et il dit, « Je suis le premier et le dernier. » Alors qu'il gardait les moutons, David, inspiré par Dieu, prit sa harpe et se mit à chanter dans le psaume 23:1. L'Éternel est mon berger. Et il utilise le mot Yahvé. Yahvé est mon berger ou l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 11? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. David, lorsqu'il adore Yahvé dans l'Ancien Testament, il adore le Jésus qui vient nous visiter dans le Nouveau Testament. Jésus est le Yahvé de l'Ancien Testament, le Dieu qui est le berger de David. Et dans l'Ancien Testament, et il est le berger qui sauve dans le Nouveau Testament. Écoutez ce que David dit dans le psaume 24:10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le Jéhovah des armées ou le Yahvé des armées est le roi de gloire. Vous avez fini de tourner, oui? Tournez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. 1 Corinthiens 2, 8. T'sais. Que dit Paul maintenant dans 1 Corinthiens 2, 8? C'est bien par contre, hein? J'espère que vous ne développerez pas de l'arthrite avec vos doigts à tourner ce matin. Bon, moi, j'ai pas de. Bon, moi, j'ai tourné, ça fait. J'ai tourné depuis 2 jours. Mais pour préparer ce message. Mais... Que dit maintenant Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8? Il parle de la divinité de notre Seigneur. Il dit aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié. Écoutez bien. Il répète. Ce que le psalmiste dit dans le psaume 24:10, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Frères et sœurs, c'est des passages où vous devez noter ça. Notez si jamais vous devez rendre témoignage à des gens qui sont perdus et qui remettent en question la divinité de Jésus, c'est des versets que vous devez prendre en note. Il n'y a pas juste les témoins de Jéhovah, il y a les Mormons. Hein, moi, j'ai croisé des Mormons, ils sont venus frapper à ma porte chez moi. Les Mormons aussi, ils envoient des missionnaires. Mais c'est important pour vous. Et c'est important d'être solide dans la parole. Dans Thessaloniciens, le Seigneur, il dit que dans les derniers temps, il va envoyer une puissance d'égarement. C'est très difficile de faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et cette puissance d'égarement que Dieu va envoyer, c'est une forme de jugement. Parce que les gens rejettent la grâce de Dieu, rejettent l'Évangile aujourd'hui. On est dans les temps de Noé, frères et sœurs. Avant le jugement du déluge, il était écrit que le mal s'était répandu partout sur la terre et que Dieu vit que le cœur des hommes était porté qu'à la méchanceté. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule période dans l'histoire de l'homme où on peut dire que le mal est répandu partout sur la terre, comme à l'époque de Noé. Et Jésus dit, ce sera, quand le Fils de l'homme reviendra, ce sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, mariaient leurs filles, s'amusaient. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gens veulent tellement s'amuser qu'ils sont indifférents face à la mort. Ce sont des brebis qui s'en vont directement à l'abattoir. Et Dieu nous a donné un beau mandat, une mission extraordinaire, c'est de leur partager l'espérance qu'il a déposée dans nos cœurs. En parlant du sabbat, dans Exode chapitre 20, versets 10 et 11, Dieu dit, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est le sabbat, c'est-à-dire le jour de l'Éternel, le jour de Yahvé. Dans Matthieu chapitre 12, verset 8, Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il n'y a que le Fils de l'homme qui puisse être maître du sabbat. Et on est maître quand c'est nous qui avons établi une chose. Jésus ici, chers amis, ce que j'essaie de démontrer, c'est que lorsque vous témoignez pour Jésus, vous témoignez pour Yahvé, parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament ou le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et le Yahvé de l'Ancien Testament et le Jésus qu'on retrouve dans le Nouveau Testament ne font qu'un. Amen! Ils ne font qu'un. C'est extrêmement important. Ils ne font qu'un. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que le véritable christianisme, c'est la plus belle histoire qui peut être partagée? Vous imaginez Dieu. Regardez l'immensité de l'univers. Les scientifiques, ils en tombent sur leur derrière, frères et sœurs, quand ils regardent la grandeur de l'univers. Et Dieu est encore plus grand que ça, frères et sœurs. Il ne peut pas être plus petit que son univers, il ne la contrôlerait pas. Il est encore plus grand que son univers. Et il n'y a rien qui lui échappe. Il y a un œil sur chaque chose, chaque grain de poussière qui se promène dans l'univers. Et ce Dieu, frères et sœurs, il s'humilie. Il vient s'offrir en sacrifice, il devient un homme. C'est incroyable, quelle belle histoire! Il vient s'abaisser pour sa créature, pour lui ouvrir les portes du ciel, les portes du royaume de Dieu, pour lui permettre de passer l'éternité avec lui. C'est extraordinaire! Quelle belle histoire! On a de la misère quand on rencontre un autre homme d'oser s'abaisser, de reconnaître qu'il est supérieur à nous, c'est ce que la parole nous dit, de voir nos frères et nos sœurs comme étant supérieurs à nous-mêmes. On a de la difficulté. On est souvent centré sur le bouton qui est ici, là, à l'intérieur, hein? Oui, c'est vrai. Et lui, frères et sœurs, qui tient l'univers dans ses mains, a osé s'humilier pour vous et pour moi. J'ai de la difficulté encore à saisir pleinement tout l'amour que Dieu a eu pour moi, Jésus-Christ. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et quand on est infidèle, c'est vrai qu'il reste fidèle. Et c'est vrai qu'il pleure de voir qu'on déroge à sa parole. Quelle patience que ce Dieu merveilleux. Quelle patience. Quelle patience. Quelle belle histoire que la venue de Jésus-Christ sur la terre. Quelle belle histoire que Dieu en Jésus-Christ a pu nous recréer. Nous permettent de faire partie de sa famille, de faire de nous non seulement ses enfants, mais aussi ses héritiers. Quelle grâce! Frères et sœurs, il va nous donner un corps semblable à Jésus-Christ. Il n'était pas obligé. Il pouvait nous donner un corps légèrement inférieur à Jésus-Christ. Il nous a donné un corps glorifié. Il nous promet de nous donner un corps glorifié semblable à Jésus-Christ. C'est extraordinaire! Il ne nous doit rien! C'est incroyable, cet amour! Et frères et sœurs, Jésus n'a pas été épargné quand il est venu sur la terre. Il a rencontré de nombreux religieux qui se pensaient supérieurs à lui. Ouais. Et il n'a jamais été arrogant envers qui que ce soit. La parole nous dit, il s'est abaissé, il s'est humilié. Et nous sommes appelés à suivre cet exemple. Les uns envers les autres, d'être capable de s'humilier et d'être capable de s'abaisser. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas exercer la discipline. Cela nous demande, est-ce que Jésus était sévère dans beaucoup de choses aussi? Mais cela nous demande d'être capable de s'abaisser, de s'humilier. Et quand on doit exercer la discipline, la chose la plus difficile dans l'Église, eh bien, parce qu'on voit notre frère et notre soeur toujours supérieurs à nous-mêmes, on va discipliner avec amour. On a dit qu'il ne plaindra pas pour excommunier les gens, mais pour les amener à faire tous nos efforts pour réconcilier cette personne, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec ses frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est l'exemple que le Seigneur Jésus nous donne. Et c'est une lourde tâche qu'il donne à ceux qui sont appelés à diriger l'Église, à ceux qui sont appelés à diriger les différents ministères dans l'Église. Je viens d'utiliser les Écritures, mais il est important de comprendre que Jésus existe avant même de venir au monde à Bethléem. Il n'y a jamais eu un moment dans le temps où Jésus n'a jamais existé. Jésus a toujours existé puisqu'il est Dieu fait homme. Regardez ce que Jean dit dans Jean chapitre 1, versets 1 et 2. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, dit l'apôtre Jean. Jésus est appelé ici la parole de Dieu, et Dieu a créé à partir de sa parole au commencement. Jean dit, ce verset dit, qu'il était au commencement avec le Père et qu'il était Dieu. Quand il est né à Bethléem, frères et sœurs, il était aussi vieux que son père et plus âgé que sa mère. Il n'y a jamais eu de moment où il n'existait pas. Jésus a toujours existé. Vous vous dites peut-être, mais pasteur, je comprends pas bien ce point. C'est tout à fait normal que vous compreniez pas pour cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre pleinement Dieu, frères et sœurs. On ne sera jamais capable de comprendre pleinement Dieu. On a une intelligence tellement limitée. Et lui, il a une intelligence illimitée. Ce genre capable de comprendre Dieu. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est capital dans notre vie, ça. Tant et si longtemps qu'on n'a pas compris ça, si on fréquente l'Église, on reste des religieux et on n'a jamais passé par la nouvelle naissance. Jamais. Jamais, jamais. Il y a un miracle qui se passe à la croix. Ce n'est pas juste le pardon des péchés. Il y a une nouvelle naissance. C'est spécial. Particulier. Et quand les gens vous écorchent, vous êtes capable de prier pour eux. Vous êtes capable de mettre en application ce que Jésus dit. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Pas facile, celle-là. Hein? Est-ce qu'un être limité peut comprendre celui qui est illimité en toutes choses? Quelqu'un a demandé un jour à l'épouse d'Albert Einstein si elle comprenait la théorie de la relativité. Qui comprend la théorie? Non? Apparemment qu'il y en a eu 12 qui la comprennent. Elle répondit, non, mais je connais le docteur Einstein. Elle le connaissait. Écoutez, je ne peux pas comprendre la préexistence de Jésus, mais je crois qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu parce que la parole me le dit. Amen. Amen. La parole de Dieu enseigne la sainteté absolue de Jésus-Christ. Et nous savons qu'il n'y en a qu'un seul qui est parfaitement saint, et c'est Dieu lui-même. Dans Osée, chapitre 11, verset 9. Osée, allez dans Osée. Dieu dit. Car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je suis Dieu, et non pas un homme. Frères et sœurs, on laissé la parole le dire, car tous ont péché et sont privés dans la présence glorieuse de Dieu. Alors Dieu ici dit, je suis Dieu, je ne suis pas un homme, il n'y a pas un homme, nous savons qu'il n'y a pas un homme qui est saint par nature, Dieu seul est saint. Dans Jean chapitre 8, verset 46, Jean chapitre 8, verset 46, Jésus pouvait regarder ses détracteurs et ceux qui complétaient contre lui et leur dire ceci. Qui me convaincra de péché? Je ne voudrais pas poser cette question, moi, qui me convaincra de péché à mes amis, ni encore moins à mes ennemis. Mais ici, Jésus dit, qui me convaincra de péché? Et lorsque les apôtres vont parler de la résurrection de Jésus, ils vont dire dans Actes chapitre 3, verset 14, vous avez renié le saint et le juste. Osée 11, rappelez-vous, Osée 11, Dieu dit, je suis le saint au milieu de toi, et Actes chapitre 3, 14. Les apôtres disent, vous avez renié le saint. Le saint dans Osée, c'est le même. Yahvé, Jésus sont la même personne. Vous avez renié le saint et le juste, celui qui n'a jamais commis de péché. Il est saint, il est parfaitement saint. Sa parfaite sainteté distincte Jésus de tous les autres individus. Frères et sœurs, je vais vous poser une question, ça m'est venu comme ça en préparant le message. Avez-vous jamais remarqué que Jésus n'a jamais prié pour demander pardon pour ses péchés? Et si jamais il avait commis un péché, il voulait tellement être en communion avec le Père qu'on aurait eu dans la parole, la prière dans laquelle il aurait demandé pardon à Dieu. En aucun temps on trouve une seule parole où Jésus va demander pardon au Père parce qu'il a commis un péché. Parce que Jésus était sans péché. Parce que Jésus était Dieu fait homme. Amen. Il n'a jamais prié pour recevoir le pardon. Et puis, au contraire, il nous a enseigné Hein, il nous enseignait dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6, verset 12. Mais il n'a jamais eu une attitude arrogante qui l'aurait poussé à dire qu'il était saint. Nous venons donc de regarder ensemble quelques versets confirmant que nous retrouvons les attributs du Père dans la personne de Jésus-Christ. Deuxième point, rapidement, permettez-moi de vous donner une deuxième raison pourquoi je crois que Jésus est Dieu. L'adoration qu'il a reçue prouve qu'il est Dieu. Premièrement, il avait tous les attributs qu'on retrouve chez le Père, on les retrouve chez Jésus-Christ. Et deuxièmement ici, il a prouvé l'adoration qu'on lui a faite. Jésus a été adoré, il a même permis qu'on l'adore. Frères et sœurs, adorer un autre nom que Yahvé, Jéhovah, c'était de l'idolâtrie, c'est encore de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est le péché à ne pas commettre. Et pourtant, Jésus a permis lui-même d'être adoré, alors qu'il savait que seul Dieu pouvait être adoré. Nous savons que Satan a essayé de faire en sorte que Jésus l'adore. Luc chapitre 4, versets 6 et 7, ceux qui ont leur Bible. Luc chapitre 4, versets 6 et 7. Le diable dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été donné, et je la donne à qui je veux. Donc, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donne tout ce que tu veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Écoutez maintenant ce que Jésus va répondre au verset 8. « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » L'adoration réservée à Dieu seul, et Jésus va permettre dans Matthieu chapitre 28, les versets 8 et 9, d'être adoré. Rappelez-vous Marie de Magdala et Marie qui courent annoncer la nouvelle aux disciples que Jésus est ressuscité. Jésus va venir à leur rencontre. Il dit, « Je vous salue. » Elles vont s'approcher pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Elles l'adorèrent. Celui-là même qui a dit qu'on devait adorer Dieu seul et lui seul permet à ses disciples de l'adorer. Supposons que je me place devant Lino ce matin. Ça va, Lino? Et que je commence à l'adorer. Que ferait Lino? Je vais vous dire ce qu'il ferait. Il dirait, « Pasteur, arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, on va avoir tous les deux des problèmes. D'abord, vous pour avoir fait cela, et moi pour vous avoir laissé faire cela. » Dieu seul peut être adoré. Même Jean, quand il veut se prosterner devant l'ange, l'ange dit, « Hé! Tu fais là. Wow! Pierre fera la même chose. Hé, hey, wow! Je suis qu'un homme. Je suis qu'un compagnon de voyage, dira l'ange en Apocalypse. » Tourne avec moi dans Apocalypse, chapitre 22, verset 8. Jean se trouve sur l'île de Patmos. Apocalypse, chapitre 22, verset 8. Il a une vision. Ah, ben tiens, j'ai devancé ce que je devais vous dire. Un ange lui apparaît et lui montre des choses merveilleuses. Jean est tout simplement dépassé par tout ce qu'il voit. Et voici ce qu'il dit. « C'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, regarde attentivement, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu! » Voici un ange ici qui dit, « Garde-toi de m'adorer. » Jean se lève. Non, il dit à Jean, pardon, il dit à Jean, « Lève-toi. Je ne suis qu'un compagnon de service. Adore Dieu. » Chers amis, si Jésus a permis lui-même de se laisser adorer par les gens ou de permettre aux gens de l'adorer, alors qu'il a dit que Dieu seul devait être adoré, soit qu'il est coupable d'avoir manifesté une arrogance démesurée, ou soit qu'il commet le péché à ne jamais commettre pour un juif, ou alors il est Dieu. Vous n'avez pas d'autre choix. L'adoration que Jésus a reçue prouve qu'il est lui-même Dieu. On a parlé de ses attributs, on a parlé de son adoration. Troisième point, Jésus affirme lui-même être Dieu. Dans Jean chapitre 8, là vous pouvez tourner, on va rester quelques minutes. Jean chapitre 8. Jésus a une sérieuse, pendant que vous cherchez, je vais donner le contexte. Jésus a une sérieuse discussion avec des pharisiens qui ne pouvaient pas accepter le fait qu'il était Dieu fait homme. Pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas utiliser Jean avec les témoins de Jéhovah? Vous allez voir, c'est le verset qui prouve que Jésus est Dieu, mais ils ont modifié un mot qui nous qui nous empêche finalement de pouvoir continuer à témoigner. Donc, ça, il faut vraiment témoigner avec les témoins, leur exigeant qu'ils aient une Bible. Je vais vous dire quels mots ils ont changé. Alors voilà, Jésus a une sérieuse discussion avec les pharisiens qui ne pouvaient pas accepter que Jésus soit Dieu, fait homme. Et Jésus va leur dire, « Abraham a tressailli de joie. » Je ne vais pas donner le verset, hein? Okay. Ça doit être le 56. Voilà, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Le problème, frères et sœurs, c'est qu'Abraham il est mort depuis des siècles. Et que Jésus leur dit au verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Verset 57, les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Écoutez attentivement ce qu'il va dire au verset 58. Jésus leur dit, « en vérité. » Frères et sœurs, lorsque Jésus dit « en vérité », vous portez attention. Mais lorsque Jésus dit « en vérité », vous êtes mieux de porter attention, parce qu'il s'apprête ici à mettre l'emphase sur quelque chose de très important. Écoutez bien. Et regardez ce qu'il va dire. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il ne dit pas « avant qu'Abraham fût, j'étais ». Et ça, c'est ce que vous retrouvez dans les Saintes Écritures des témoins de Jéhovah. On a changé le mot « je suis » pour le mot « j'étais ». Et là, vous ne pouvez plus discuter. Mais si vous avez fait du grec, le mot « je suis » en grec, c'est « eimi », « e-i-m-i », et non pas « estai », « e-s-t-a-i », qui veut dire « j'étais ». C'est « eimi ». Si vous allez dans une Bible grecque, traduction en grec, c'est vraiment « je suis ». On ne peut pas discuter là-dessus. Mais si vous... C'est pour ça que vous devez toujours, toujours, toujours demander à quelqu'un, peu importe qui vient frapper à votre porte, qui veut vous rencontrer, toujours demander, exiger, Bible à Bible. Et c'est pour ça, c'est un défi pour nous aussi, d'apprendre à connaître notre Bible et à savoir ce qu'on fait. Pour pas nous se faire promener et balloter par des vagues qui vont nous amener dans une tempête spirituelle terrible. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne dit pas avant qu'Abraham fût, j'étais. Il dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Et je suis, pardon. Et lorsqu'il va dire cela, regardez la réaction des gens au verset 59. Et frères et sœurs, si les Juifs ici ne comprennent pas que Jésus est en train de leur dire qu'il est Dieu, expliquez-moi pourquoi ils veulent les lapider là-dessus. Qu'est-ce que Jésus a dit de grave pour qu'on puisse se lapider si c'est qu'il n'est pas en train de leur dire « Je suis Dieu ». Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ils sont prêts à le lapider maintenant parce qu'il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Pourquoi voulait-il le lapider? Parce qu'il avait dit qu'il était « Je suis ». Frères et sœurs, lorsque Dieu va appeler Moïse à conduire les Juifs hors d'Égypte vers la terre promise, Moïse va dire, « Seigneur Yahvé, s'il me demande quel est le nom de celui qui m'envoie, que vais-je leur dire? » Vous devez comprendre pourquoi Moïse demande ça. Les Égyptiens adoraient 2200 dieux. Moïse savait que les Israélites lui demanderaient au nom de qui il se présentait devant eux. Au nom de quel Dieu tu te présentes devant nous? Alors, qu'est-ce que Moïse dit? Tournez dans Exode, chapitre 3, verset 14. Et à côté d'Exode, chapitre 3, verset 14, si dans vos Bibles ce n'est pas marqué, vous écrivez Jean, chapitre 8, verset 58. Et dans Jean, chapitre 8, verset 58, vous marquez Exode, chapitre 3, verset 14. Pendant que vous cherchez, frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi il était important de méditer les Écritures. Au début de ma vie chrétienne, en six mois de vie chrétienne, j'ai eu à affronter deux témoins de Jéhovah. Je n'étais pas ferré dans la connaissance de la parole. Mais celui qui m'avait amené au Seigneur, mon père spirituel, m'a dit, « Lis les Écritures, lis les Écritures, lis les Écritures, garde tes yeux sur Jésus, garde tes yeux dans la parole. » Et ces deux personnes, elles avaient réussi à m'ébranler en prenant des versets isolés. Et je me suis mis à genoux le soir. J'ai crié au Seigneur en prière. « Seigneur, montre-moi où est la vérité. » Et j'avais appris par cœur Jean chapitre 1, verset 1. Et le Saint-Esprit m'a dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'était clair pour moi maintenant. C'était clair. Et frères et sœurs, je n'avais pas médité les Écritures à ce moment-là. Je ne sais pas en tant que jeune chrétien où je serais aujourd'hui. L'importance de méditer les Écritures. Le malin nous envoie des fins renards. Des fins renards. Des loups dans la bergerie qui sont là pour ébranler les brebis. Regardez, Exode, chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Jésus dit, avant qu'Abraham fût, « Je suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Celui qui a toujours existé, qui n'a jamais eu de commencement, qui n'aura jamais de fin, « Je suis » m'a envoyé. Quand Jésus dit aux personnes qui l'écoutent, « Avant qu'Abraham fût, je suis », ils ont fait la connexion tout de suite, ils ont fait la connexion. Et là, c'était le pire blasphème à faire. On prend des pierres pour la lapider, il n'y a pas d'autre explication. Vous êtes incapable d'expliquer pourquoi on voulait la lapider quand vous lisez le verset 58, si ce n'est pas qu'il s'est proclamé Dieu. Amen. Les Juifs dirent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Frères et sœurs, le Jéhovah, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament et c'est lui-même qui l'a affirmé. Dans Jean chapitre 14, versets 8 et 9, c'est un autre beau verset pour nous, ça aussi. Jean chapitre 14, versets 8 et 9. On va se dépêcher. Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, et c'est magnifique ça, hein? « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu. Philippe, ça fait tellement longtemps que je suis avec toi, et tu n'as pas encore compris qui j'étais. Philippe, ça fait tellement longtemps que je suis avec toi, et tu n'as pas encore découvert à travers les miracles que j'ai faits, à travers les paroles que j'ai prononcées, qui j'étais. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, Philippe, montre-nous le Père? Philippe, à travers tout ce que j'ai fait au milieu de vous, à travers tout l'enseignement que je vous ai donné, tu n'as pas encore compris que le Père et moi, nous sommes un? Frères et sœurs, supposons que vous me regardez et que vous dites, « Pasteur, montrez-nous le roi des Belges. » Et que je vous réponde, eh bien, vous êtes en train de le regarder. Si vous me voyez, je vous dis, si vous me voyez, vous avez vu le roi des Belges, ben, je suis certain que vous vous diriez, le pasteur, il ne va pas bien ce matin. Il doit aller faire une cure à quelque part. Mais c'est exactement ce que Jésus dit à Philippe. Hein? Philippe, celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Parce que je suis Dieu, Philippe. Qui autre que Dieu peut accomplir les prodiges que j'ai accomplis? Qui peut ressusciter les morts? Qui peut bénir ceux qui le maudissent? J'irai même plus loin que ça. Qui, en dehors de Dieu, peut vous endurer les 12? Parce que vous vous demandez même qui est le plus grand parmi vous. Qui peut vous endurer en sachant que les 12 allaient m'abandonner le jour où on va saisir de moi me faire crucifier? Frères et sœurs, humainement parlant, c'est pratiquement impossible à réaliser. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Et Dieu le fait à travers la personne de Jésus-Christ. Passons maintenant au dernier point. Rapidement, Jésus a prouvé qu'il était Dieu par ses grandes capacités. Je veux mentionner trois choses rapidement ici. Que la parole de Dieu mentionne. Ce que Jésus est capable de faire parce qu'il est Dieu. Et que personne d'autre en dehors de Jésus ne peut faire. Frères et sœurs, Jésus est Dieu parce qu'il est le seul qui peut sauver. En dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Jésus est le seul qui peut sauver. Rappelez-vous que Jéhovah dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, pardon. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Maintenant, regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ah, il manque un mot important, là, hein? Oh! C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Pas à moitié, pas aux trois quarts, pas au tiers, parfaitement, frères et sœurs. On ne devrait jamais, jamais douter de notre salut. Parfaitement, Jésus ne nous lâchera jamais la main. Nous, on peut lui lâcher la main, mais jamais il va nous lâcher la main. Et je peux vous dire ce matin qu'il est encore capable de sauver. Il n'y a personne en dehors de lui qui est capable de sauver, et quiconque veut être sauvé peut être sauvé. Et vous vous dites peut-être dans cette salle ce matin, qu'est-ce qui me dit que je n'ai pas commis le péché impardonnable? Chers amis, si vous voulez être sauvés, vous pouvez être sauvés, car quiconque veut être sauvé n'a pas commis le péché impardonnable. Amen. Amen. Vous vous dites peut-être, est-ce que je fais partie des élus ce matin? Voulez-vous être sauvés? Eh bien, venez à lui tel que vous êtes. Qui sont les élus? Je peux vous l'expliquer en 15 secondes. Les élus, frères et sœurs, c'est quiconque veut le devenir, car il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Deuxièmement, il est Dieu parce que lui seul est capable de soumettre toutes choses à son autorité. Paul dit en parlant de notre Seigneur qu'il est capable de transformer notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps de gloire, à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Et lorsqu'il reviendra nous chercher, frères et sœurs, c'est ce qu'il nous fera. Amen. Amen. Il n'y aura pas de médecin, pas d'hôpital dans le royaume de Dieu. Vos prescriptions, vos médicaments, chut! Plus besoin de payer pour se faire enlever les cides, les rides dans le visage, se faire remonter le reste. Faut pas s'imaginer ce qui nous attend. Le combat, vous savez où il est, frères et sœurs. On a tout à l'extérieur pour nous faire détourner les yeux de celui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. On a tout dans les médias pour nous salir nos oreilles, qui ne sont pas des poubelles, pour nous détourner de la parole de Dieu. Il est capable de soumettre toute chose à son autorité. Chaque grain de poussière, chaque montagne, chaque corps céleste, toutes choses sont soumises à son autorité. Il est capable de sauver, il est capable de soumettre toutes choses parce que finalement, il est capable de vous garder. Et je me suis posé la question, tiens, c'est un beau défi pour vous, ça aussi, ce matin. Il est capable de nous garder de quoi? 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Il est capable de nous garder de quoi? Là, j'ai dit un matin, je suis en train de regarder mon message, je suis en train de le revoir, et je me dis, bien, c'est vrai ça, il est capable de nous garder de quoi, dit Paul? De garder son dépôt dans la Louis II. C'est quoi le dépôt? C'est quoi le dépôt? Bien, vous le lire en français courant. Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Lorsque Paul avait été battu et emprisonné, il dit, « Je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement, ce qu'il m'a confié. Qu'est-ce qu'il a confié? Qu'est-ce qu'il a confié à Paul? Paul dit, il peut le faire. Quel Dieu puissant nous servons? Il est capable de répondre à chacun de nos besoins. Quel sauveur merveilleux nous possédons? Frères et sœurs, j'aime Jésus de tout mon cœur. Vous aussi? Ah! Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est mon dépôt? Qu'est-ce que Dieu m'a confié? Frères et sœurs, je peux me tromper, hein? Je vais vous donner une explication. En méditant, c'est ce que j'ai reçu, quoi. Il me garantit que l'Évangile du début, qui n'a pas encore changé, que nous entendons aujourd'hui, qui ne change pas, cet Évangile ne changera pas non plus demain. Ça veut dire quoi? C'est important pour nous. L'Évangile que vous entendez, vous allez mourir. Vous imaginez si Dieu change d'idée dans 100 ans, il dit, oh, je change de message. C'est important, Paul avait l'assurance qu'il garderait son dépôt jusqu'au jugement. Frères et sœurs, ce en quoi nous avons cru, le Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne changera pas. Le message, il ne changera pas. Il est le même. Et ça, c'est notre garantie. Amen. Quel Dieu puissant. Les mots me manquent pour le décrire. Notre intelligence est tellement limitée pour le comprendre et notre cœur est tellement trop petit pour le contenir. Jésus-Christ est Dieu. L'expliquer, c'est impossible. L'ignorer, c'est désastreux. Et le rejeter, c'est fatal. Je reviens maintenant à notre texte. Que vais-je faire de Jésus? Qu'allez-vous faire de Jésus? Vous pouvez le couronner, le crucifier. Tous répondirent, Matthieu 27, 22, « Crucifie-le! » Vous pouvez l'accepter ou le rejeter. Vous pouvez l'aimer ou le mépriser. Vous pouvez croire en lui ou l'ignorer. Mais, frères et sœurs, vous ne pouvez pas être neutre. Vous ne pouvez pas dire, moi, je suis chrétien, et ne rien faire pour démontrer que vous êtes chrétien. Et dire, je ne suis pas dans le monde, et ne rien montrer au monde que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas être neutre quand vous appartenez à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous garantit que s'il a été persécuté, vous allez être aussi persécuté. Pilate a essayé d'être neutre. Il n'a pas été capable d'être neutre. Il les a amenés à choisir entre Jésus Barabbas ou Jésus de Nazareth. Et on a choisi plutôt de libérer un meurtrier que de libérer le seul, le juste, celui qui est saint. Frères et sœurs, Jésus est dans vos mains ce matin. Vous devez prendre une décision parce que vous avez besoin de lui dans la vie. Si le paradis n'existait pas, si l'enfer n'existait pas, vous auriez quand même besoin de Jésus à tous les jours. Il est le sang dont votre corps a besoin. Il est l'oxygène dont vos poumons ont besoin. Vous avez besoin de lui dans la vie et vous aurez besoin de lui dans la mort. Un jour, nous allons tous mourir et nous aurons tous besoin de lui lorsque nous allons mourir. Vous aurez besoin un jour de lui dans le jugement, lors du jugement. Vous vous tiendrez un jour devant Dieu, soit pour être jugé, soit pour être acquitté. Vous comparaîtrez deux résurrections, la résurrection des justes, la résurrection des injustes. Vous aurez besoin de Jésus, qu'il proclame au Père, lui, je suis mort pour lui, il a accepté, je suis mort pour lui. Il a reconnu qu'il était un pécheur, il s'est repenti de ses péchés. Il a reconnu que le seul moyen pour lui, que les portes du paradis lui sont ouvertes, c'est grâce à ce que j'ai accompli pour lui à la croix. À ce moment-là, il n'y a plus aucune excuse qui tiendra. Aujourd'hui, Jésus est entre vos mains, mais au jour du jugement, frères et sœurs, votre sort sera entre ses mains. Je vous pose encore cette question. C'est une question capitale, c'est une question personnelle, c'est une question qui demande une réponse immédiate. Que ferez-vous de Jésus? Si ce n'est pas le cas, allez-vous l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur ce matin? Premièrement, si vous l'acceptez, je peux vous garantir qu'il vous pardonnera tous vos péchés. Il est fidèle et juste. Deuxièmement, il viendra habiter en vous par son Saint-Esprit et il vous donnera la force et la puissance de tout supporter comme il l'a fait pour moi depuis 30 ans. Troisièmement, il vous utilisera comme son instrument et il vivra sa vie en vous. Quatrièmement, lorsqu'il reviendra, il vous prendra avec lui et vous serez avec lui pour l'éternité. C'est une promesse que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Je vous invite à incliner votre tête en terminant.